Cos, une émission proposée par Michel Niaille. Bonjour, alors c'est donc votre première émission de cette année que vous souhaitez intituler Laïcos. Pourquoi Laïcos ?
Alors, je vais expliquer un petit peu ce titre énigmatique. C'est un mot grec. Laïcos est l'adjectif correspondant au nom Laos, qui en grec veut dire peuple. Et donc Laïcos veut dire populaire. Et pourquoi avoir choisi ce mot qui sert de racine à notre expression aujourd'hui, laïque ou laïcité? C'est parce que ce mot a un destin et qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'on comprenne exactement qu'est-ce qui se cache derrière ce mot laïque ou laïcos.
Oui.
J'en tirerai, si vous voulez, deux leçons. La première leçon, c'est que le mot laïque en français ou laïcité est un mot qui arrive tardivement dans notre vocabulaire et encore plus dans nos dictionnaires. Il n'est pas antérieur aux années 1880. Et même quand il est utilisé à cette époque-là, ceux qui l'utilisent préviennent que c'est un néologisme forgé récemment et qui n'est pas forcément bien compris par les contemporains. Autrement dit, c'est un mot savant qui n'a pas d'histoire antérieure à ces années 1880, qui apparaît un peu subrepticement dans un paysage qui jusque-là n'avait jamais connu ce mot, pour expliciter ce qui va devenir un grand combat de la Troisième République, les combats de la laïcité. Donc ce mot, il est daté et il est un mot savant. Et il va devenir de plus populaire, peut-être grâce à la série de lois qui vont être prises entre 1880 et 1905, et surtout la loi de 1905 dite de séparation des Églises et de l'État.
Allez-y, je vous laisse continuer. Je ne connais pas votre déroulement, donc je vous laisse continuer.
Peut-être faut-il expliciter en quoi ce mot laïcité innove. C'est que la laïcité, on va le voir au cours de nos émissions, est le principe qui permet d'assurer la liberté à la fois de conscience et de pratique en matière de religion. Qu'est-ce qui existait jusque-là en matière de conscience et de pratique religieuse? Un système tout à fait différent. Pendant des siècles, il faut bien comprendre que l'idée même de laïcité n'existe pas, puisqu'on n'a pas le mot. Et donc, quand on n'a pas un mot pour désigner une chose, cette chose n'existe pas. En effet, pendant des siècles, il apparaît comme évident que la société française est une société chrétienne. On pourrait même ajouter chrétienne catholique. Cela fait des siècles que tous ceux qui ne se reconnaissent pas comme chrétiens catholiques sont pourchassés. Ça commence très tôt avec notamment le fait de chasser les Visigoths, qui étaient une population à l'origine, comme son nom l'indique, venue d'Allemagne ou de l'Est de l'Europe, et qui s'installe notamment dans la péninsule ibérique et dans le sud de la France, et qui forme un grand royaume qui est le royaume Visigoth. Or, les Visigoths, ils sont chrétiens, mais pas comme le voudrait le pape de Rome. Ils sont arianistes, c'est-à-dire qu'ils suivent les enseignements d'un prêtre égyptien qui s'appelait Arius et qui pensait que le Christ avait une double nature. Il était à la fois un homme et un dieu. Et on laisse cette espèce d'ambiguïté dans la célébration d'un Christ qui est à la fois humain et divin. Or, ce n'est pas du tout le point de vue de l'Église catholique pour qui Jésus est un homme en apparence, mais est d'abord le Fils de Dieu et une divinité. Et ces arianistes vont être décimés, notamment par les armées de Clovis, et vont disparaître. Plus tard, ce sera le cas des cathares. Les cathares, c'est latéralement, on pourrait dire, des chrétiens. On ne sait pas très bien exactement quelle est leur religion, qui vient du côté de la Bulgarie et qui se fonde sur l'idée qu'il y a une double divinité. Il y a le dieu du bien et le dieu du mal, tel que dans l'Ancien Testament on le voit apparaître. Et donc ils ont une vision extrêmement rigoriste de la vie dans notre société, puisque nous sommes sans cesse menacés par le mal. D'où le fait que les cathares ont une vie extrêmement pure, qu'ils tendent vers la perfection, mais en même temps sont très près du peuple, et surtout s'organisent comme une contre-église, avec ceux qui apportent le consolamentum, qu'on pourrait assimiler à des prêtres, avec des évêques cathares, avec des conciles cathares. Bref, l'église de Rome prend peur, et voilà, cette nouvelle religion qui prospère dans le sud-ouest de la France, une menace dramatique. D'où le fait qu'on va envoyer une croisade que le roi de France est obligé d'accepter contre le comte de Toulouse, qui soutient les cathares, et les cathares, on le sait, seront exterminés. Et puis plus tard, on va avoir les protestants. On sait évidemment qu'est-ce qui se passe et comment les protestants, qui sont pourtant d'authentiques chrétiens, vont être pourchassés, tentés d'être éliminés par le rouleau compresseur d'une église catholique qui ne peut pas supporter la concurrence. Et puis plus tard, il y aura ceux qui n'appartiennent à aucune religion, qu'on appelle les libres penseurs, qui sont des voltairiens et qui affirment haut et fort que finalement peut-être Dieu n'existe pas et qu'on peut très bien vivre sans cela. Autrement dit, vous le voyez, pendant des siècles, il est clair que l'idée qu'on puisse ne pas être chrétien catholique échappe totalement à la conscience collective. Et vous voyez que donc, pendant ces années-là, ces siècles-là, l'idée de laïcité n'a aucun sens et le mot n'existe pas. Il faudra attendre le début du 19e siècle pour qu'on commence à imaginer, après la Révolution française, qu'après tout, la liberté de penser et donc de croire et donc de pratiquer est une liberté individuelle et qu'aucune autorité de l'État n'est autorisée à imposer à qui que ce soit, quelque religion que ce soit. Donc, pour conclure sur ce premier point, l'idée de laïcité qui apparaît très tardivement est précédée par une longue histoire ténébreuse, je dirais, où il n'est même pas question de penser la liberté de penser et de croire, et où donc l'idée même de laïcité est absente.
Bien, ça c'était votre premier point, une introduction finalement.
Ouais, la première leçon que je tire du mot laïcité. Alors la deuxième leçon que je tire du mot laïcité, c'est, en revenant vers son étymologie de peuple populaire, c'est que au fond c'est le peuple et chacun d'entre nous qui est capable de décider de ce qu'il veut croire ou ne pas croire. Et malgré le fait que Napoléon Ier impose quatre cultes dits reconnus, le culte catholique, les deux cultes protestants qui sont calvinistes et luthériens, et le culte israélite, il laisse comme héritage de la Révolution la liberté à d'autres cultes de s'installer, voire même à des courants de pensée qui ne professent aucun culte, le droit d'exister. Donc, dès le début du 19e siècle, commence cette expérience un peu curieuse, où on a d'un côté la reconnaissance officielle par l'État et son subventionnement des églises officielles, et de l'autre côté, la liberté pour ceux qui n'appartiennent pas à ces églises ou qui contestent même l'idée de la divinité, de vivre selon leurs orientations philosophiques. Et c'est de là que démarre pendant tout le cours du XIXe siècle une lente progression de l'idée de liberté, même en matière religieuse. C'est assez iconoclaste au début. L'Église catholique explique que sans le christianisme catholique, la société va s'effondrer. Elle va tenir ce discours jusqu'au XXe siècle. Et que donc, il n'est pas question de céder du terrain. Mais elle est bien obligée d'accepter que la Révolution a laissé des traces et que donc il y a des libertés. Et au fur et à mesure que se développe le XIXe siècle, se développent aussi des philosophies que nous aurons l'occasion d'étudier plus tard, des philosophies qui disent que l'évolution de la société va progressivement abandonner les vieux rituels des croyances, que tout ceci était lié à un état inférieur de la société et que les lendemains sont promis à la science, à l'indépendance d'esprit et d'une certaine manière à l'athéisme. Croire que Dieu a fabriqué le monde, croire qu'il dirige les actions de la société seraient les restes d'une société en train de mourir. Et on voit comment la libre pensée, entendue comme libre par rapport aux religions, commence à se développer dans des milieux philosophiques, dans des milieux de l'enseignement supérieur, et évidemment dans les milieux qui se détachent de plus en plus de l'Église catholique, qui sont les milieux populaires, considérant que l'Église catholique est d'abord du côté de l'État, du côté des puissants et du côté des riches. Ce qui fait qu'à la fin du XIXe siècle, enfin peut apparaître cette idée qu'il est légitime de pouvoir vivre sans croire, ça c'est le cas depuis la Révolution, mais plus même que l'État ne peut pas être le garant d'une partie des Français qui sont croyants. Et apparaît cette idée que l'État pourrait être séparé des églises et de la croyance. Et c'est là qu'apparaît le mot laïcité, que l'État pourrait être laïque, c'est-à-dire séparé des religions. Selon le mot célèbre de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. On est encore loin de la loi de 1905, mais cette idée maintenant s'est imposée qu'après tout, la laïcité, entendue comme la séparation entre la sphère de l'intime et de la croyance et la sphère publique, qui est celle de l'État et des collectivités publiques, cette séparation est désormais dans les esprits et elle va être bientôt dans les textes juridiques.
C'est donc la deuxième évolution de la société, au fond, par rapport à cette notion de laïcité.
Absolument. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que, bien avant que la loi de 1905 apparaisse, dans les 30 ans qui précèdent, il y a tout un ensemble de lois qui sont toujours applicables en France, qui font progresser la laïcité de l'État. Je vous en donne quelques exemples. On rétablit le divorce. Le divorce avait été supprimé, oui, par le retour des rois après 1815, alors que c'était une conquête de la Révolution, faisant du mariage un simple contrat. Et évidemment, les rois, 18, Charles X, revenant au pouvoir, considèrent que c'est absolument insupportable et ont rétabli l'interdiction du divorce, qui était la vieille règle depuis des siècles de l'Église catholique. En rétablissant par la loi Naquet le divorce, on rappelle que finalement le mariage est peut-être pour certains un sacrement, mais qu'il est d'abord une cérémonie civile par laquelle deux citoyens ou citoyennes lient leur sort, mais de manière contractuelle. Et donc, ce qu'un contrat a pu faire, un contrat peut le défaire, on peut tout à fait divorcer et mettre fin au contrat. C'est un coup fondamental dans l'architecture de notre société, de considérer que le mariage n'est plus un acte religieux, mais il est d'abord un acte civil. Et d'ailleurs, vous savez que depuis cette époque-là, il ne peut pas y avoir de mariage religieux qui ne soit survenu après le mariage civil. Le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux, il ne peut pas en tenir compte. Mais il y a bien d'autres lois qui vont apparaître à partir de 1880, les lois sur l'école, qui indiquent que désormais l'enseignement n'est plus soumis à la religion catholique notamment, mais que c'est un enseignement laïque, les instituteurs devant obligatoirement être laïcs. Et le grand ménage qui sera fait, c'est d'abord de débarrasser toutes les salles de classe et toutes les écoles des signes religieux. On enlève les crucifix, on enlève les statues de la Vierge, on enlève les images saintes et on va imposer désormais un enseignement laïque. De même, les cimetières, loi de 1884, qui jusque-là étaient des cimetières catholiques, vont devenir des cimetières communaux laïques, où toute personne peut être enterrée. Il ne faut pas oublier qu'avant 1884, l'Église catholique avait décidé que certaines personnes ne pouvaient pas être enterrées. C'était le cas, évidemment, des hérétiques, donc des protestants, d'où les petits cimetières familiaux protestants. Quelquefois, quand ils avaient la possibilité d'acheter, comme à Montpellier, un terrain, un cimetière protestant qui était à part. Bon. Donc, interdiction des hérétiques, ne parlons même pas, évidemment, des juifs. Interdiction aux libres penseurs, dont les francs-maçons, notamment, ne peuvent pas être enterrés. Interdiction pour les femmes adultères, ou comme disait ma grand-mère, les femmes de mauvaise vie, qui ne peuvent pas être enterrées. Interdiction pour les suicidés, puisqu'à la place de Dieu, ils ont décidé de mettre fin à leur vie. Autrement dit, un ensemble d'interdits qui touchaient des citoyens français qui, après tout, avaient le droit d'être hérétiques, avaient le droit de se prostituer ou avaient le droit d'avoir une autre religion. Donc la laïcisation des cimetières, qui fait que désormais c'est banal, toute personne peut être enterrée, quelle que soit sa religion, dans le cimetière communal, est une conquête de cette époque-là. J'ajoute également, de quelques années précédentes, en 1881, et on en parle beaucoup actuellement, la liberté de la presse. La presse est désormais autorisée dans le droit fil de la liberté de penser, d'exercer la liberté d'expression, pourvu qu'il n'y ait ni injure ni diffamation. Ce qui permet le développement de caricatures et d'articles qui peuvent être violemment opposés à la religion catholique, notamment. Donc on voit comment, et je termine avec la loi de 1905 sur les associations, qui suit la loi d'interdiction des congrégations enseignantes en France, on voit que pendant 30 ans, progressivement, la société française va devenir laïque, ou se trouve libérée par le principe de laïcité d'un certain nombre de contraintes qui pesaient sur elle depuis des siècles. De sorte que la loi de 1905, au début du XXe siècle, n'est pas le début de la laïcité, mais le couronnement d'une longue marche de la laïcité, dont le terme existe depuis une trentaine d'années, tendant à bien séparer dans la société française ce qui est de l'ordre du commun, ce qui est de l'ordre du tous, représenté par l'État et les collectivités locales, et puis ce qui est de l'ordre du particulier, de l'intime, du familial, et qui est le lieu réservé à l'expression de convictions religieuses. Donc, pour conclure, je pourrais dire, le premier temps nous montre qu'il était impensable d'avoir le mot laïcité pendant des siècles, que ce mot ne s'impose que tardivement. Et ensuite, deuxième leçon, que lorsque ce mot s'impose, il s'impose dans un contexte très particulier et de manière tout à fait progressive par une laïcisation de la société, ou plutôt des lois qui régissent la société, avant que la séparation des églises et de l'État ne soit actée en décembre 1905.
Merci, merci Michel Miaille pour cette première émission Laïcos. Comment est-ce que vous allez continuer sur la deuxième émission ?
Alors, ma deuxième émission, que j'ai déjà préparée, c'est de clarifier la différence entre une société laïque et une société sécularisée. Parce que souvent, on confond les deux mots,
oui.
Et ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'il peut y avoir des sociétés sécularisées avec une église d'État, je le montrerai, exemple le Danemark, et il peut y avoir des sociétés laïques comme en France, et qui restent encore assez religieuses. Donc ce sont deux phénomènes qui se développent dans des espaces tout à fait différents.
Merci Michel Miaille, et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Laïcos, une émission proposée par Michel Miaille.